Bienvenue dans Vignes et Papilles, une émission qui parle de vin, de vigneronnes et de vignerons, de terroirs, de millésimes, de cuisine et de bien d'autres choses encore.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Aujourd'hui, on va parler des rosés de fin d'été. Donc, pour essayer de prolonger l'été en douceur, de se rappeler les moments de vacances et de faire une petite transition tranquille.
Vers l'automne.
Vers l'automne, donc avec ces jolis rosés qu'on consommera avec modération, bien entendu.
Alors, on croise encore des gens aujourd'hui qui croient qu'on fait le rosé en mélangeant du rouge et du blanc. Alors, la question, bien sûr, qui vient tout de suite, c'est de se dire, mais comment on fait le rosé ?
On fait le rosé comme on fait le vin rouge, c'est-à-dire qu'on prend des raisins rouges, qu'on presse et qu'on laisse macérer plus ou moins longtemps pour avoir la couleur souhaitée. Donc, quand on fait du vin rouge, on prend des raisins rouges, on les écrase, on les met dans une cuve et il y a des fermentations qui se font et il faut attendre longtemps. Pour faire le rosé, on va arrêter le processus un petit peu avant. C'est-à-dire que si on veut faire un rosé clair, comme les rosés de Provence, on va faire une courte macération. Donc, on prend les grains, enfin, on prend le raisin, on enlève la grappe, on met dans une cuve, on écrase et on va laisser quelques heures, voire une demi-journée maximum. Et là, on va avoir du rosé clair, parce que c'est la peau qui donne la couleur. Donc, plus on laisse macérer les raisins longtemps, plus ça va être foncé. Moins on les laisse longtemps, plus ça va être clair.
Et alors, on entend parler de rosé de saignée, de rosé, que sais-je encore. Mais alors, quelles sont les différentes formes, les différents types de fabrication du rosé ?
Alors, le rosé clair, comme le rosé de Provence, c'est ce qu'on appelle du rosé de presse. C'est-à-dire qu'on prend le raisin, on presse dans un délai assez court. Et là, ça donne une couleur claire, puisque la peau n'a pas eu le temps de colorer le jus. Le rosé de saignée, c'est un rosé qu'on laisse plus longtemps. C'est comme si on commençait à faire du rouge et à un moment donné, on saigne la cuve, donc on enlève une partie du vin qui est en train de macérer. Et ça s'appelle du rosé de saignée puisque donc on enlève cette partie de la cuve. Et ça va être un rosé qui va être plus foncé puisqu'il sera resté plus longtemps en contact avec la peau.
Et alors, est-ce qu'on fait du rosé absolument partout ou est-ce qu'il y a des régions, des terroirs, des cépages qui sont vraiment dédiés au rosé ?
Alors, on fait du rosé plutôt dans les pays du Sud et dans les régions, en tout cas pour la France, proche de la Méditerranée. Il y a une tentative de faire du rosé en Champagne qui s'appelle le rosé des Rissés, mais qui est quand même un rosé moins parfumé, on va dire, que les rosés du Sud. Il y a du rosé dans la Loire, mais les trois quarts de la production en France, en tout cas, c'est autour de la Méditerranée, parce qu'on le fait plus facilement avec des cépages méditerranéens, parce que, comme la peau humaine, la peau du raisin, plus elle est au soleil, plus elle fonce. Donc, pour avoir des rosés qui ont un peu de couleur, il faut des raisins rouges qui ont la peau foncée. Donc, on va en faire beaucoup en Languedoc, en Provence, dans le sud-ouest, principalement.
Et aujourd'hui, donc, de quel rosé nous allons parler, Christine ?
Alors, on va parler de deux rosés différents. Le premier, c'est les tendances du domaine Montfin en Corbière-Maritime. Et le deuxième, rosé fine du domaine La Croix-Gratio, en IGP Pays d'Hérault, mais dans le territoire de Picpoul de Pinay.
Alors avant d'en savoir un petit peu plus, allons écouter un petit air de musique.
Oui, j'ai choisi Jan Garbarek, qui est un saxophoniste norvégien que j'adore.
Thank you.
Donc, on vient d'écouter Going Places du saxophoniste Jan Garbarek.
Et nous avons sous les yeux une magnifique bouteille qui s'appelle Les Tendances, donc on en parlait tout à l'heure. L'étang avec un magnifique flamant rose dessiné sur cette étiquette. C'est très, très épuré, c'est très beau. Et donc, qu'est-ce qui ressort un petit peu de cette dégustation? Puisque Les Tendances, c'est un vin qui nous est proposé par le château Monfin.
Alors, le château Monfin se trouve en bordure de l'étang de Bages, donc qui se trouve à côté de Narbonne, et où il y a des flamants roses donc, qui dansent. Donc, le flamant rose a un petit chausson de danse à sa patte. Donc, c'est vrai que c'est un jeu de mots et c'est une très, très jolie étiquette. Et donc, effectivement, quand il travaille dans les vignes, il voit des flamants roses sur l'étang. Sur les temps de base.
On a l'étiquette AB, donc il s'agit donc d'un vin bio. Quand on dit vin bio, justement, pour pas qu'il y ait de confusion, on parle de quoi exactement?
On parle d'un vin qui a très peu de soufre et très peu de produits chimiques. C'est contrôlé et c'est quantifié. Donc quand on est en agriculture traditionnelle ou maintenant on dit agriculture raisonnée, on a le droit d'utiliser une certaine proportion de produits phytosanitaires pour traiter la vigne, le raisin, etc. Et quand on est en bio, on en utilise très très peu et on n'a droit qu'à une certaine variété de produits le plus naturel possible. Même si on en met le moins possible. Donc voilà.
Alors on déguste ce rosé en plusieurs temps. Alors ce premier temps de dégustation consiste en quoi?
Alors le premier temps consiste à regarder la couleur du vin. Donc la couleur du vin, on verse le vin dans un verre, si possible avec un bord un peu resserré pour que les arômes remontent et soient plus perceptibles. Donc on regarde d'abord la couleur. Si on a une feuille de papier ou quelque chose de blanc, on peut incliner le verre vers la feuille de papier pour voir la transparence et la masse de la couleur du vin. La couleur, ça dépend du cépage. C'est pas une garantie ni de qualité ni de non-qualité. C'est comme les personnes, on a des peaux de couleurs différentes. Les raisins ont des peaux de couleurs différentes. Et quand on fait le vin, ça donne des couleurs différentes. Donc celui-là, il a une couleur saumonné, assez clair, il est assez brillant, assez limpide, et il est donc relativement clair. Ensuite, une fois qu'on a regardé la couleur, on va sentir. Donc, on va sentir, c'est-à-dire qu'on va approcher notre verre de notre nez, ça s'appelle le premier nez. Le premier nez, c'est la première impression qu'on a quand on déguste un vin. C'est comme il a été embouteillé, comme il a été dans la bouteille de suite. Quand on l'a emprisonné dans cette bouteille, hop, il sentait ça. Donc, le premier nez nous permet de savoir si c'est aromatique ou pas. Si c'est aromatique, ça veut dire qu'on sent des parfums, des arômes différents. Et là non plus, ce n'est pas une garantie de qualité, c'est le cépage qui est aromatique ou pas. Donc, s'il est aromatique, on va sentir des choses. Pour que ce soit plus simple, on les met en catégorie en famille. Donc, on va ranger les arômes en catégorie de fleurs, de fruits, éventuellement d'autres arômes pour d'autres vins. Mais pour les rosés, en général, fleurs, fruits et si c'est minéral ou pas minéral, qui sont des arômes un peu plus difficiles à distinguer parce que on ne sent pas des cailloux. Donc, c'est des impressions et puis c'est à mesure qu'on déguste qu'on le voit. Donc pour celui-là, le premier nez, c'est un nez avec des petits fruits rouges, un petit peu d'agrumes mais pas trop, qui est assez agréable, qui est assez complexe. Donc complexe, ça veut dire qu'il y a plusieurs arômes. Alors, contrairement à un vin où qui peut sentir un seul arôme, genre le pamplemousse ou la fraise ou etc. Et plus un vin a des arômes, plus il en a, plus il est complexe et plus, a priori, il est bien fait.
Donc dans ce cas, effectivement, nous sommes face à plusieurs arômes.
Là, on a plusieurs arômes. Et ensuite, on va goûter on va faire le deuxième nez, c'est-à-dire qu'on va remuer le vin dans le verre. Si on prend un verre donc, qui a les bords resserrés vers en haut, les arômes vont remonter vers le haut et donc sur cette partie resserrée qui va concentrer les arômes. Et là, on va sentir un peu plus et un peu mieux les arômes que nous dévoile le vin. Mmh. Donc, normalement, on va sentir plus précisément, c'est-à-dire que si j'ai dit fruits rouges au début, là, on va sentir fraises, framboises, fraises des bois, etc. Et peut-être d'autres choses qu'on n'avait pas senties la première fois, une sucrosité ou des petits trucs qui picouillent dans le nez ou j'en sais rien. Mmh. Et ensuite, on va goûter pour savoir si ça correspond au nez et qu'est-ce que ça fait en bouche, qu'est-ce que ça fait comme impression et qu'est-ce que ça fait comme arôme.
Alors, dans ce cas, qu'est-ce que l'on ressent une fois qu'on a dégusté ce vin?
Alors, quand on déguste un vin, la première chose qu'on sent, c'est le sucre, la sucrosité. Et ensuite, on sent l'acidité. Donc, la première impression qu'on a, c'est de voir s'il est sucré ou pas trop. Et ensuite, derrière, tout de suite, l'acidité arrive. Ce qui est important dans le vin, c'est qu'il soit équilibré. C'est-à-dire qu'il ne soit pas trop sucré, pas trop acide, pas trop lourd, etc., etc. Donc, pour ce vin-là, il est relativement acide, c'est-à-dire qu'il a un taux d'acidité élevé qui n'est pas trop, mais qui est haut. Donc, on va sentir en bouche plus de pamplemousse que au nez. Les fruits rouges vont arriver derrière. La sucrosité, elle est normale, elle est correcte, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop sucré, mais il est assez sucré pour que ça compense l'acidité. Les arômes vont revenir. Et ils sont assez complexes. On a de la fraise, on a de la framboise, on a du pamplemousse, on a du pamplemousse rose surtout. On a des petites pointes minérales et une impression, je pense, qui est due au fait que c'est près de l'étang de Bages, une impression un peu iodée. Ça, moi, dans ma bouche, ça me fait, enfin, c'est difficile à expliquer, mais ça fait comme si c'était une petite brume marine qui arrivait par-dessus tout ça. Et ensuite, une fois qu'on a fini de déguster et en général qu'on a craché le vin, en tout cas pour les dégustateurs, on a une impression qui reste. Ça s'appelle la caudalie. Ça a été codifié comme ça. La caudalie, c'est la seconde, en fait. Une caudalie, c'est une seconde. Et donc, plus ça reste longtemps en bouche, plus le vin est complexe. Pour le rosé, qui est un vin qui est fait dans l'année et qui se boit en général dans l'année, on ne va pas avoir des caudalies très très longues. Donc en général, si ça reste 3, 4, 5 secondes dans la bouche, qu'on a cette impression de persistance aromatique, ça veut dire que c'est bien fait. Dans ce cas, le cas de ce vin-là, effectivement, c'est le cas.
Oui, tout à fait. On a une persistance qui est étonnante pour un rosé.
Voilà.
Et alors, où est-ce que l'on trouve ce vin? On va rappeler la référence, le nom, le domaine.
Donc, ça s'appelle l'étang danse, donc comme un étang qui danse. Le domaine, c'est le Château Montfin, à Périac-de-Mer, à côté de Narbonne. C'est aux environs de 12 euros et on le trouve chez les cavistes principalement. Je ne l'ai pas vu en supermarché.
L'étang danse Château Montfin, un vin bio recommandé par Christine.
On va continuer avec un autre rosé du domaine La Croix-Gratiot qui s'appelle Rosé-Roséphine. Et donc, rien de tel qu'une chanson de Bachung pour illustrer ce rosé.
À l'arrière des berlines, en devine. Les monarques et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux. Livrés à eux. Ils font des petits. Ils font des envieux. À l'arrière des dauphines. Je suis le roi de Sénéra. À qui sourit la vie. Marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire hennir les chevaux du plaisir. Osez, osez, Joséphine. Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Usez les souliers, usez les uriers, soyez ma muse. Et que ne dure que les moments doux, dure que les moments doux. Et que ne dure. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Osez, osez. Osez, osez. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie.
Alors, ce rosé Joséphine a une couleur un peu similaire à l'autre rosé, donc... Saumonné, on peut dire aussi pétale de rose, rose ancienne, c'est très joli, c'est une très belle couleur, brillant aussi.
Ça tire un peu sur le rose, effectivement, un peu plus.
Ça tire un tout petit peu plus sur le rose. Ensuite, le nez est plus fruit rouge que celui que le précédent, et il y a une petite touche de caramel aussi, un petit peu comme les pommes d'amour qu'on avait à la foire quand on était petit. La bouche est moins acidulée, plus fruits rouges, plus charnue, un peu plus douce, un peu plus tendre.
Oui, là, on a oublié les agrumes, là, un petit peu. Hein. Oui.
Là, il y a moins d'agrumes, effectivement, il y a un petit peu, mais pas beaucoup. On est plus sur la framboise, la fraise des bois, la groseille, toujours ce caramel qui vient adoucir tout ça. C'est quand même légèrement acidulé. Bon, c'est du rosé, c'est pas du vin moelleux. Et il est... Pareil, il est aussi complexe que l'autre, mais plus sur un registre de fruits rouges et un peu moins sur la dominante acidulée.
Alors, on a affaire là aussi à un vin bio, hein, comme le précédent, donc avec les mêmes caractéristiques liées à cette dénomination. On entend parler aussi parfois de biodynamie. Qu'est-ce que c'est la différence?
Oui, alors celui-là, il est... Ils n'ont encore pas le label parce que c'est labellisé, mais le domaine est en train de basculer vers la biodynamie. La biodynamie s'est apparue au début du XXe siècle et c'était une mouvance qui voulait qu'on essaie de profiter et d'utiliser uniquement ce qu'on avait sur place, c'est-à-dire qu'au même endroit, on ne veut pas faire aucun gaspillage et on veut tout utiliser. Donc si on a un domaine, on va avoir des arbres, on va avoir des animaux, on va avoir des fruits, des légumes, de la vigne. Et par exemple, pour la biodynamie, on va traiter la vigne avec des plantes qui poussent sur le domaine si possible. On va mettre des préparations à base... Alors à l'époque, c'était fait avec de la... Et c'est toujours fait avec des cornes de vache qu'on réduit en poudre et qu'on pulvérise. Les préparations sont à base de plantes médicinales traditionnelles, en réduisant encore plus donc, le soufre, le sulfate, etc. Et surtout, on travaille avec la lune, comme les anciens, avec les phases de la lune. Donc, on va embouteiller, planter, récolter, etc. sur des jours spécifiques, donc des jours fruits, des jours fleurs, des jours racines, comme pour les légumes.
Les cornes de vache, on n'en trouve pas trop en Languedoc.
On n'en trouve pas trop en Languedoc, donc on en achète ailleurs et on se les fait livrer et on les utilise quand même.
Donc pas tout à fait avec des ressources 100% locales quand même.
Alors c'était ça s'est fait au début parce que là où c'est né, ben, y avait de quoi.
Rosé Joséphine, on voit une, là aussi une étiquette très, très, très épurée avec... juste un petit arbre. C'est assez joli. Une bouteille forme bourguignonne, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Voilà. Donc, les bouteilles forme bourguignonne sont les bouteilles un peu plus ventrues et les bouteilles forme bordelaise sont les bouteilles plus hautes et plus fines. Et là, dans l'arbre, il y a un poisson, si vous avez bien regardé.
Alors, je vois que les bouteilles ont été ouvertes en laissant une espèce de collerette. Alors, est-ce qu'il y a une technique pour ouvrir une bouteille ?
Alors, sur une bouteille, il y a un petit renflement au-dessous de l'ouverture. Moi, il y a plusieurs façons d'ouvrir. Moi, j'ouvre sous ce renflement parce qu'à l'époque, la collerette qui s'appelle la jupe était faite avec du plomb. Et donc, quand on servait le vin, si on avait une goutte de vin qui repartait sur la collerette et qui revenait dans le verre au moment où vous remplissez le deuxième verre, on risquait d'avoir un petit peu de plomb qui passe dans le vin. Donc, c'était assez toxique. Moi, maintenant, évidemment, les collerettes ne sont pas faites avec du plomb, donc il n'y a aucun risque. Par contre, moi, je trouve que c'est plus simple parce que ça fait un appui pour l'ouvre-bouteille, pour pouvoir s'appuyer et ouvrir proprement la bouteille. Dans les restaurants, souvent, ils ouvrent sur le dessus, un peu plus haut, et ils font une espèce de petit chapeau avec une collerette qui est très jolie. Voilà, moi, j'ouvre dessous.
À l'ancienne.
Enfin, à l'ancienne, je ne sais pas, mais j'ouvre dessous.
Et donc, on a affaire à ce rosé-rosé fine, à un vin qui est fait par une vigneronne.
Oui, c'est une vigneronne qui a travaillé, qui a pris la suite de son papa, enfin, qui est encore sur le domaine, et qui, quand elle est revenue au domaine, parce qu'elle est partie faire des expériences ailleurs, travailler ailleurs pour se documenter, elle est très, très fan de biodynamie, mais elle cherche, elle va expérimenter des choses, etc. Et donc, ils replantent, ils enherbent, ils plantent de l'herbe entre les rangs de vignes, ils essaient de changer les contenants en mettant des jarres, en mettant des amphores, en mettant des choses en grès, etc. Et elle fait très, très peu d'élevage en barrique, elle fait beaucoup de choses en cuve ou en jarre.
On est sur un terroir qui est plutôt propice au pic-poule, c'est ça ?
Sur une vigne, on peut faire du vin blanc, du vin rosé ou du vin rouge, indifféremment. Après, ça, c'est le choix de la vigneronne ou du vigneron. Mais effectivement, sur un terroir où on fait des vins plus acidulés, plus acides, entre guillemets, elle arrive à faire des jolies choses bien charnues et bien tendres, oui.
Donc, on peut rappeler le nom de ce vin, son appellation, et puis où est-ce qu'on le trouve ?
Alors, donc ça s'appelle Rosé Rosé Fine. Le domaine, c'est la Croix Gratio, à Montagnac, pas très loin du Picpoul de Pinet. Ça coûte, pareil, 12,50 €, et ça se trouve chez les cavistes uniquement.
Alors, qu'est-ce que l'on peut manger avec ce type de vin ?
Pour le premier, pour les tendances donc, du domaine Montfin, moi je préconiserais des plats à base de courgettes et de fromage, par exemple courgettes à la ricotta ou courgettes aux crevettes, pour que les arômes de fruits rouges qui sont dans le vin rehaussent un peu le goût des courgettes qui est quand même un légume un petit peu fade. Même si c'est très bon. Et la ricotta, ou les choses comme ça un peu crémeuses, quand on boit un rosé avec, ça enlève un petit peu le gras. Donc ça se marie bien parce que ça rince la bouche de façon agréable. Et ça, donc ça gomme un petit peu ce côté des fois un peu trop gras ou beurré. Un risotto, on peut faire aussi, donc, parce que ça a un côté crémeux le risotto, donc pareil avec ce qu'on veut. Et on peut faire aussi des salades de fruits, des choses comme ça qui sont un petit peu fruits rouges ou des tartes un peu sucrées puisqu'il est un petit peu plus acidulé, un petit peu plus pamplemousse, donc ça va enlever le trop sucré d'une tarte aux fruits par exemple. Okay. Et voilà, pour le rosé-rosé fine, on peut faire beaucoup de choses, on peut faire des plats méditerranéens. Pareil, des aubergines avec une sauce au yaourt, par exemple, où on peut faire des plats à base d'asperges et de poissons, des truites fumées, des choses comme ça. Et pareil, des desserts aux fruits avec une base de lactée, par exemple, une charlotte aux framboises ou un clafoutis, des choses comme ça, pour, pareil, que l'acidité du vin enlève un petit peu ce côté crémeux ou qui peut parfois être trop crémeux en bouche du clafoutis, de la charlotte aux framboises ou de crème parfumée.
Et dans les deux cas, est-ce qu'on peut dire qu'on est plutôt sur des rosés de repas ou sur des rosés d'apéritif?
Ceux-là peuvent faire les deux. Ça peut faire très bien l'apéritif, mais ça peut tout à fait accompagner un repas parce qu'ils ne sont quand même pas légers. Ils ne sont pas trop légers, ils ne sont pas trop charnus, mais ils tiennent la route sur un repas, oui, sans problème.
Eh bien voilà, j'espère que nous avons ouvert l'appétit aux auditeurs. Merci pour ces commentaires de vin.
Avec plaisir, on va peut-être prendre le conseil de la semaine ou du jour de Guillaume pour ce qui est lecture liée au vin.
Eh oui, tout ce qui est comme la culture qui entoure le vin. Et effectivement, je voulais vous parler d'une BD qui s'appelle Les Ignorants, qui est sortie en 2011 chez Futuropolis, une BD de Étienne Davodeau. C'est le récit d'une initiation croisée. Sur un an, le dessinateur invite le vigneron à partager un peu sa vie et voir comment ça marche, la vie d'un dessinateur à Paris. Et en contrepartie, le vigneron invite le dessinateur plusieurs fois dans l'année aussi à voir toutes les étapes de la vigne. Et là, c'est très intéressant parce que c'est pas que les vendanges et la mise en fût, etc., qu'on peut facilement voir dans les films, etc. Mais là, on voit tout ce qui se passe, même l'hiver, ou le choix des bois pour les fûts, la préparation de la terre. Donc, on découvre finalement que le vigneron, il est un peu cultivateur, géologue, presque un peu menuisier. Enfin, voilà, on se rend compte de l'ampleur du métier du vin. Et c'est vraiment très bien fait, ça se lit tout seul.
Merci Guillaume.
Mais merci. Et bien voilà, c'était donc la première émission consacrée au rosé à consommer avec modération, bien entendu. Et on se retrouve le mois prochain pour une émission consacrée au vin et Roquefort, en espérant que vous avez pris autant de plaisir que nous. À bientôt.
Au revoir et à très bientôt.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.